suivre dans leur Bible. Donc notre prédication, c'est dans le livre des Juges. Nous serons, c'est une prédication qui nous introduit un petit peu dans ce livre, hein, un livre historique. Alors, Marc nous a rappelé que nous faisons partie de l'histoire. Ma première question à vous tous, c'est: aimez-vous l'histoire? Êtes-vous passionné lorsqu'on vous raconte les récits des Gaulois, des Romains, des Vikings, des Maures, des chevaliers du Moyen-Âge, des châteaux forts, des cathédrales, de la réforme, de la Renaissance, de la monarchie, de la révolution, de l'explosion de l'industrie, des guerres mondiales? Ou bien est-ce que tout cela vous ennuie profondément? Vivant dans une société moderne qui se croit évoluée, nous sommes nombreux à ne pas avoir le temps pour l'histoire. À penser que nous avons bien assez à faire pour comprendre notre époque. Et nous avons l'impression que l'histoire n'a pas grand-chose à nous apprendre. Nous avons du mal à saisir parfois qu'une telle attitude vient de l'orgueil de l'homme et est une conséquence de la lutte spirituelle dont l'homme est plongé depuis la chute que Marc a évoquée tout à l'heure. En effet, alors que Dieu est un Père qui enseigne en rappelant constamment les leçons de l'histoire, Satan, lui, préfère que nous oublions de telles leçons, que nous ne retions du passé que le souvenir des fautes des autres, afin de conserver un esprit de vengeance, et puis aussi cet orgueil qui consiste à nous considérer meilleurs, plus intelligents, plus civilisés, plus évolués que nos ancêtres. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une telle attitude. La Bible, cette parole que Dieu nous a laissée, afin que nous le connaissions et que nous nous connaissions aussi, est rempli d'histoire, avec et sans S, hein, c'est-à-dire de récits, d'histoires, d'anecdotes, mais aussi la grande histoire. Et Dieu l'a voulu ainsi, c'est ce qu'il a voulu. Car il veut que nous vivions comme ses enfants, comme des enfants de lumière et non pas comme des fils de rébellion. Parfois, l'histoire de la Bible nous inspire, nous donne des modèles à suivre, des exemples de comportements fidèles. Parfois, elle nous avertit, nous montre les attitudes à éviter, souligne les conséquences de la désobéissance. Toute l'histoire, selon ce que notre Seigneur Jésus nous enseigne lui-même, parle de lui et doit, que ce soit avertissement ou que ce soit modèle à suivre, nous pousser à regarder vers la croix et la résurrection, aboutissement de l'histoire, l'histoire de la rédemption. Là, nous sommes au début du livre des Juges. C'est un livre qui tombe plutôt dans la catégorie des avertissements. Mais il y a quand même bien des modèles inspirants dans le livre des Juges aussi, malgré tout. Et comme les autres livres historiques de la Bible, le livre des Juges pointe constamment en direction du Messie. Il nous parle de lui. Les juges qui sont de vrais juges doivent nous faire penser aux juges parfait, donc doivent nous tourner notre regard vers Jésus-Christ. Alors, nous avons quand même tendance, hein, si on vous parle du livre des Juges, à retenir l'exemple de foi et de courage, ou les exemples de foi et de courage que nous trouvons dans ce livre. Par exemple, Gédéon, Déborah, même peut-être encore que nous avons des fois du mal avec un juge comme Samson. Ce livre est quand même surtout l'histoire du déclin spirituel du peuple d'Israël après le livre de Josué, après le décès de Josué, le grand chef qui a succédé à Moïse. Il contient des leçons fondamentales, mais parfois, peut-être souvent, assez sombres pour le peuple de Dieu de notre temps. Il est intéressant de remarquer que dans la Bible hébraïque, ce livre est classé non pas parmi les écrits, mais parmi les prophètes, les premiers prophètes. Il a beau parler de l'époque, se situant sans doute entre 1400 et 1000 ans avant Jésus-Christ à peu près, il contient un message réellement prophétique. C'est-à-dire un message que nous, chrétiens aujourd'hui, négligerions à nos risques et périls. Avant d'aborder les extraits des deux premiers chapitres qui vont servir d'introduction au livre, il est utile de mentionner quelques-uns des grands thèmes de ce livre des Juges. Il rappelle en réalité quelques grandes vérités bibliques que nous ne devons jamais négliger. Premièrement, il rappelle que Dieu est juste. La justice fait partie intégrante de sa nature. Mais aussi Dieu ne peut pas s'en écarter. De ce fait, l'injustice ne peut pas subsister indéfiniment devant lui. Deuxièmement, ce livre nous rappelle que Dieu est patient et plein de grâce. Il n'est pas sourd à la repentance de son peuple, même quand il sait très bien que les effets de celle-ci, de cette repentance, ne seront pas durables. Il est prêt à pardonner, à délivrer et à rétablir. Troisièmement, Dieu est souverain. Quelles que soient les impressions de l'homme dans son orgueil, l'histoire est dans sa main. C'est lui, Dieu, qui la dirige. Ses agents ne sont pas toujours des serviteurs fidèles, ne sont pas toujours des serviteurs obéissants. Il emploie très souvent des hommes et des femmes qui sont même inconscients d'être ses instruments. Et son plan s'accomplit d'une façon qui nous étonne fréquemment. Quatrièmement, la foi reste toujours la base de toute vraie relation avec Dieu. Les victoires accomplies par certains des sauveurs, parce que les juges sont appelés des sauveurs de ce livre sont des victoires de foi. Et les échecs de son peuple sont dus à un manque de foi. Au fait que le peuple veut marcher par la vue et non par la foi. Cinquièmement, ce livre nous enseigne, chapitre après chapitre, que l'on n'ignore pas impunément les leçons de l'histoire. Si l'on ne tient pas compte des graves conséquences de la rébellion, de l'infidélité de nos ancêtres, eh bien, nous aurons tendance à agir comme eux et à subir les mêmes conséquences. Sixièmement, une vraie repentance doit porter de vrais fruits. Des fruits bien concrets. Quand elle se limite à des mots, à des gestes émotionnels, mais suivis de peu de faits, elle n'est pas le gage d'un véritable réveil spirituel et n'écartera pas longtemps la juste sentence de Dieu. Sans aller plus avant dans cette liste des grands enseignements du livre, et en laissant de côté des thèmes, on va dire des thèmes mineurs, comme l'individualisme, l'esprit de clan, la soif d'indépendance et d'autres thèmes que nous connaissons, nous qui vivons au XXIe siècle, eh bien, nous allons plonger dans ce premier chapitre qui, en guise d'introduction et pour établir un cadre, va brasser l'arrière-plan des événements qui vont suivre et reprend ce premier chapitre, une petite partie du récit du livre de Josué. Donc on trouve des faits dans le premier chapitre, l'on trouve aussi dans le livre de Josué. Et montre, dans ce premier chapitre, où on est vers l'époque de la mort de Josué, la conquête de la terre promise. Donc je crois que c'est quelqu'un qui a été désigné pour lire les deux premiers versets.
L'Éternel répondit, c'est Juda qui montera. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains.
Cette première note, les deux premiers versets de ce livre, eh bien, c'est une note positive. Dans ce compte-rendu de la conquête, la partie méridionale du pays, donc le sud, on est dans le sud, le peuple semble être fidèle à Dieu, veut connaître sa volonté, et suivre cette volonté avec courage et foi. La réponse de Dieu à la prière, à l'interrogation de son peuple établit tout de suite à la fois sa souveraineté, c'est lui qui décide qui attaque à quel moment, et le pays lui appartient, on oublie souvent. Il a établi son plan et il le donne à qui il veut. Et aussi son désir de bénir, sa fidélité à sa promesse. Il ne se rétracte jamais. La terre promise est là, devant le peuple. Il lui incombe donc d'entrer dans cette promesse. Les versets qui suivent, n'en pas lire, sont très encourageants. Hein, je vous invite à les lire après, jusqu'au verset 19, hein, vous lirez, et vous verrez que c'est des versets encourageants. Juda et Siméon s'unissent, et nous tombons dans un autre thème de ce livre, parce que le livre montre que tant que le peuple s'unit, le peuple de Dieu est appelé à être uni, eh bien, il y a du succès. Lorsque le peuple, malheureusement, les 12 tribus se séparent, se chamaillent et deviennent individualistes, et bien tout au long du livre, il y a un déclin, il y a beaucoup moins de récits de succès. Mais ici, Siméon et Juda décident de se battre ensemble et bien la victoire est de partout, ou presque de partout. Ensuite, nous arrivons, après cette liste de victoires et toute cette partie méridionale avec les grandes villes, les places fortes qui sont conquises par Juda et Siméon, nous avons le verset 19. Et c'est peut-être la première fausse note.
L'Éternel fut avec Juda qui se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'ils avaient des chars en fer.
Victoire sur victoire, et d'un coup, nous arrivons à un mais. Mais. Il ne faut pas négliger les détails de la parole. Les détails sont là pour nous instruire. Très souvent, dans nos réponses à Dieu, nous disons « Oui, Seigneur, trois points, mais. » Et parfois, ce « mais » est important. Il ne s'agit pas d'un simple fait de guerre, d'un constat historique au sujet des armes relatives des Hébreux et des Cananéens. Ceux-ci avaient en effet des chars. Essayez d'imaginer l'époque. Les Israélites ne connaissaient même pas le fer encore. Ils ne travaillaient pas le fer. Et les Cananéens, eux, ont des chars. Et c'était des armes extrêmement redoutables. Seulement, les chars de l'époque, bon, même les chars d'aujourd'hui, mais surtout de l'époque, avaient du mal en terrain accidenté. Dès qu'on allait dans les collines, eh bien, on ne pouvait plus les utiliser. Donc, dans les collines, Judas a été victorieux. Mais sur les plaines, c'était les chars qui étaient victorieux. Mais la différence des armements n'est pas la leçon la plus importante, la leçon que nous devons regarder. Ce qui est important, c'est que Dieu, lui, a ordonné la destruction totale des peuples de Canaan. Car, selon la promesse et la prophétie annoncée à Abraham, ça a été évoqué là tout à l'heure, en Genèse, chapitre 15 et verset 16, la déchéance morale des Amoriens, c'est-à-dire des Cananéens, avait maintenant atteint son comble. Je ne voudrais pas savoir vous décrire comment vivaient les Cananéens. Nous, parfois, on a du mal à accepter que Dieu ordonne la destruction complète d'une nation. Eh bien, mais je peux vous dire que la vie qu'ils menaient n'était pas jolie du tout. Et que Dieu a décidé que cette injustice ne pouvait plus subsister. Ce n'est pas une conquête pour avoir des terres que les Israélites sont appelés à engager, c'est l'exécution de la justice de Dieu. Devant une difficulté maintenant, que l'on ne peut affronter, que les Israélites de l'époque, que Judas et Simon ne pouvaient affronter que par la foi et que par esprit de sacrifice, eh bien, Judas et Simon renoncent. Et il reste ces deux grandes tribus qui avaient montré la voie par leur unité, ils restent en deçà de la fidélité au commandement de Dieu. Comme pour confirmer que le problème est bien un problème de foi, l'auteur du livre des Juges souligne au verset suivant que la foi est bien victorieuse d'obstacles apparemment insurmontables. Et le contraste entre 19 et 20, c'est quelque chose que nous devons constater lorsque nous lisons. Le verset 20.
On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les trois descendants d'Anak.
Un petit verset. J'espère que, en relisant, vous n'allez pas sauter ce verset. Judas et Simeon ont renoncé devant les chars. Caleb ne renonce pas devant les fils d'Anak. Or, les fils d'Anak sont des géants. Ce sont des hommes qui font à peu près 3 mètres. La foi de Caleb. Vous vous rappelez Caleb, un des deux espions fidèles. Un des deux qui a dit, oui, il faut aller dans ce pays où il y a des géants. Et nous avons l'air d'être des sauterelles. Eh bien, Ce Caleb a survécu aux 40 années du désert et il montre que la foi suffit pour obéir et vaincre ce qui, à vue humaine, est impossible. Et Caleb, de plus, et ça, le texte ne nous le dit pas ici, mais si on lit son histoire, on le découvre, c'est un fils adoptif de Juda. Il ne descendait même pas directement du patriarche Jacob. C'est quelqu'un qui a été adopté dans le peuple. Et lui montre l'exemple de foi que Dieu honore. Et les fils d'Anak sont éliminés, sont vaincus. Lui, Caleb, n'a pas d'arme égale à Anak. Mais il a compris l'ordre de Dieu et il croit suffisamment à la promesse de Dieu de livrer le pays pour tout simplement obéir. Et Dieu lui donne la victoire. Nous n'irons pas les versets 21 à 36, mais je dois les mentionner. Je vous invite à nouveau à les lire chez vous. Dans le fond, ces versets 21 à 36, il s'agit d'une sorte de catalogue de victoires partielles ou d'échecs partiels. Après Juda, les autres tribus se contentent de victoires partielles, d'une obéissance partielle. Ce que l'on ne voit pas dans toutes les traductions, c'est que le compromis vécu par les autres tribus n'est pas un compromis stable, mais qu'une fois admis par une tribu, eh bien, ce compromis a tendance à s'aggraver progressivement. Donc, là où les premières tribus semblent conquérir la plus grande partie de l'héritage qui leur incombe, n'acceptent de partager avec un peuple soumis à tribu qu'une toute petite partie de leur héritage. Aser et Naphtali, par contre, plus tard dans la liste, n'arrivent pas à chasser les Cananéens du tout et doivent se contenter de s'installer à leur côté en se laissant dominer par eux. Pire encore, lorsqu'on en vient à la dernière dans la liste, c'est la tribu de Dan, eh bien, elle ne s'installe pas du tout dans le territoire qui lui est alloué, mais se fait repousser complètement et demeure provisoirement sur le territoire de Juda. Lorsqu'on commence à s'éloigner, eh bien, le déclin est amorcé et s'aggrave. D'abord, donc, on commence par baisser les exigences de la foi. Il naît un coin d'ombre dans notre vie. Ensuite, on accepte un grand mélange de principes et de valeurs. Et on finit par perdre ces valeurs, ces principes, et car ils sont complètement écrasés par ceux de l'adversaire. Jésus lui-même souligne cette réalité de la façon la plus claire dans cette parole que nous connaissons si bien. Cette parole de Matthieu 6 et au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. On ne peut pas mélanger deux séries de valeurs. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus. Les Israélites voulaient tenter de servir deux maîtres. Et les cinq premiers versets du chapitre 2 qui vont conclure notre lecture de ce passage ce matin. Ces 5 premiers versets du chapitre 2 nous montrent bien jusqu'où cela les conduit. Et surtout, ce passage-là, les 5 premiers versets du chapitre 2, nous dit ce que Dieu en pense.
Un envoyé de l'Éternel monta de Gilgal à Bokim et dit : Je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai amené dans le pays que j'avais juré à vos ancêtres de vous donner. J'ai dit : Jamais je ne romprai mon alliance avec vous. Quant à vous, vous ne conclurez pas d'alliance avec les habitants de ce pays. Vous démolirez leurs autels. Mais vous ne m'avez pas obéi. Pourquoi avez-vous fait cela ? J'ai dit alors, je ne chasserai pas les habitants de ce pays devant vous. Au contraire, ils resteront à vos côtés et leurs dieux seront un piège pour vous. Lorsque l'envoyé de l'Éternel eut dit ces paroles à tous les Israélites, le peuple se mit à pleurer tout haut. Ils appelèrent cet endroit Bokim et ils y offrirent des sacrifices à l'Éternel.
Dieu montre dès le début du livre qu'il n'est pas indifférent au compromis, qu'il veille sur son peuple et sur le respect de l'Alliance. Un aspect important de la fidélité de Dieu consiste à se révéler, à nous rappeler la vérité, à répéter ses commandements, masqués, hélas, par le compromis, par les mensonges de l'adversaire. Pour nous, il a choisi justement la lecture de la parole, la folie de la prédication. Pour Israël, il avait déjà le livre de la loi, ça pouvait suffire, mais comme nous sommes en pleine développement, en plein développement de l'histoire de la rédemption, il y a encore d'autres choses. Il a choisi d'envoyer ailleurs des prophètes. Ici, ce qui dans la traduction qui nous a été lue, envoyé de l'Éternel, il s'agit de l'ange de l'Éternel. Il a envoyé un ange, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire nous sommes en présence d'une théophanie. Notez que l'ange parle à la première personne. Je. Comment est-ce que cet ange parle au peuple? Eh bien, ça rappelle ce que je vous disais au début. Il commence par rappeler l'histoire. Il dit ce que Dieu a fait, ce que lui l'a fait, Dieu. Car il est essentiel que nous n'oublions jamais les œuvres passées de Dieu. Tout à l'heure, si j'ai bien vu, nous allons célébrer la Sainte Cène, qui rappelle l'alliance nouvelle, l'alliance parfaite. Une des raisons pour la Sainte Cène, c'est qu'on n'oublie pas qu'on est peuple d'alliance, qu'on n'oublie pas cette œuvre que Dieu a accomplie dans le passé. Il nous rappelle son œuvre. La base de toute repentance et tout acte de foi de notre part. Ensuite, après avoir rappelé ses œuvres, l'ange insiste sur l'alliance établie avec son peuple. Lui, Dieu, est resté entièrement fidèle à cette alliance. Et il va continuer à rester fidèle. On ne peut pas briser sa fidélité à lui. Mais il rappelle les conditions auxquelles le peuple, pour sa part, devait se conformer. C'est au verset 2 que nous avons cela. Et que ces conditions que le peuple a négligées. Cette négligence, dit Dieu, nous sommes dans une alliance, cette négligence a des conséquences. Mais ce que nous oublions souvent lorsqu'il y a des conséquences à nos actes, à nos péchés, à nos défaillances, eh bien, même les conséquences sont le reflet de la grâce de Dieu, sont un acte de grâce, rappelant sa fidélité, sa justice. C'est lorsque nous devenons conscients des conséquences de nos compromis avec le péché, que nous pouvons revenir à Dieu, découvrir cette plénitude de vie qu'il veut pour nous. Pour Israël, la présence si gênante, si terrible des Cananéens, désormais, allait être le rappel constant qu'il fallait obéir jusqu'au bout s'il voulait connaître pleinement les bénédictions de Dieu dans la terre promise. Il entend le message d'Israël à ce moment-là, réunis où les chefs des tribus sont réunis apparemment à Boukim, lieu qui reçoit le nom Boukim suite à ce message. Le peuple reconnaît la vérité et pleure. Il pleure parce qu'il reconnaît son péché. Paul parle de la repentance dans ses épîtres, entre autres dans la deuxième épître aux Corinthiens. Et je voudrais vous lire quelques versets de ce passage. Donc c'est au chapitre 7 et je lirai à partir du verset 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés par sa première lettre, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien que vous avez subi de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde, qui s'arrête avec les larmes, ne produit que la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle produit en vous? Bien plus, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Ils ont agi. Jean-Baptiste disait exactement la même chose à tous ceux qui venaient se faire baptiser. Se faire baptiser, ça ne suffisait pas. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, de race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Les larmes et même le baptême ne valent rien si la transformation ne suit pas, si on ne persévère pas dans la voie de la foi, qui est une voie d'obéissance. Ça doit conduire à un changement de vie. Si cette repentance au livre des juges vient de Dieu, elle produit un véritable changement dans notre vie. Non pas par notre force, parce que nous en sommes incapables, mais lorsque nous nous engageons comme certains de ces juges qui sont envoyés par la foi, eh bien Dieu œuvre en nous pour qu'il y ait ce changement, pour que les choses changent dans notre vie. Oui, je vous encourage à relire ce passage, chapitre 1 jusqu'au 2, verset 5, lorsque vous rentrerez aujourd'hui ou plus tard ou ce soir ou demain ou dans la semaine. Ce n'est pas simplement une leçon de géographie. Vous avez plein de lieux dans la terre promise qui sont partiellement conquis. Mais ce passage nous rappelle l'importance de repérer nos vrais ennemis. Et il nous rappelle l'ordre de nous séparer, de nous séparer de ses ennemis. Non pas en nous détruisant, aujourd'hui nous n'avons pas appelé à détruire les ennemis comme l'était le peuple d'Israël à l'époque, mais en refusant sa façon de vivre, en refusant leur façon de penser. Pour accomplir cela, ce passage nous pousse à détecter nos zones de compromis. Reconnaissant que ces zones de compromis enfreignent les conditions de l'Alliance, nous aussi, nous sommes peuple de l'Alliance. Il nous pousse, ce passage, vers la repentance, une vraie repentance active, qui produit le fruit de vie changée. Ce passage, dans le fond, nous pousse à nous rappeler le défi que Jésus-Christ nous lance. En Luc, chapitre 9 et verset 23, Jésus dit à tous: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Devant un char, devant un géant, si on ne renonce pas à soi-même, eh bien on ne se bat pas. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Tout seul, même Jésus, lui, fils de Dieu, dans le jardin de Gethsémané, se sentait incapable d'affronter ce qui était devant lui. Il a imploré son Père pour qu'il y ait une autre voie, tout en disant: mais c'est ta volonté qui doit s'accomplir. Je me plie à sa volonté. L'évangile de Luc nous rappelle que Dieu a envoyé des anges pour l'aider à aller dans la voie de la foi, ce qui nous promet aussi que Dieu nous accompagne lorsque nous disons: oui, je renonce à moi-même, et ce géant devant moi, ce char devant moi, eh bien, je l'affronte. Je voudrais terminer par ce passage que nous lisons de façon, à mon sens, tronquée, bien souvent. Je ne sais pas combien de fois on vous a lu ce passage, on le connaît, j'espère, par cœur, qui conclut l'évangile selon Matthieu. Et très souvent, on lit à partir de la deuxième moitié du verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Oui, Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il dit ça une fois de plus dans le cadre de l'Alliance. Sa part, il ne renoncera pas, il restera aussi fidèle, comme Dieu l'a rappelé dans le passage que nous venons de voir. Il reste fidèle, il ne bouge pas. Mais la première partie de l'Alliance est pour nous. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur. Nous devons aussi enseigner les nations. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que quelqu'un ici peut lever le doigt en disant: je garde tout ce que Dieu m'a prescrit et je l'annonce à tous ceux autour de moi? Que tous nous vont reconnaître. Nous sommes dans la défaillance, mais par la foi, Dieu nous accompagne afin que nous restions fidèles à cette alliance. Cet ordre de mission que Dieu nous donne est une promesse alliancielle. N'oublions pas. La fidélité de Jésus-Christ est assurée. Oui, il ne change pas sa fidélité, mais elle s'accompagne du rappel de notre engagement. notre engagement dans cette alliance. Notre expérience de la fidélité de Dieu, pas sa fidélité elle-même, hein, elle ne change pas, mais notre expérience de cette fidélité est ternie si nous ne respectons pas notre côté de l'alliance. Si nous fermons les yeux sur l'introduction de cette promesse pour la connaître pleinement, pour être conscient de cette fidélité de Dieu, eh bien, Dieu nous engage à ne pas oublier son alliance. Lui, il nous accompagnera à chaque fois que par la foi, comme Caleb devant les fils d'Anak, nous nous engageons en renonçant à notre vie. Relisez le livre des Juges. Je vous invite à relire ce passage. Et nous engage à aller de l'avant dans notre vie de foi. Je vous invite à prier. Ô Seigneur, nous te rendons grâce pour ta fidélité. Nous te rendons grâce pour cette alliance parfaite que tu as établie en Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que l'ancienne alliance pointe vers cette alliance parfaite que tu as accomplie, à laquelle tu resteras toujours fidèle, dans laquelle tu nous as placés en nous invitant à marcher par la foi afin d'accomplir la loi, la parole de cette alliance. Seigneur, en nous-mêmes, nous reconnaissons devant toi que nous en sommes incapables. Mais nous croyons à ton accompagnement. Nous savons que tu es venu habiter avec nous et en nous. Seigneur, une telle grâce dépasse notre compréhension. Aussi, nous te disons tout simplement merci. Seigneur, accompagne-nous. Garde-nous, Seigneur, du compromis lorsque tout est trop difficile pour nous. Aide-nous. Comme Caleb et comme notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ lui-même dans le jardin de Gethsémani, aide-nous à nous tourner vers toi et à reconnaître que c'est toi qui donnes cette vie qui permet d'œuvrer selon ta parole. Loué sois-tu, nous recevons cette parole, qu'elle produise du fruit dans notre cœur à la gloire de Jésus-Christ. Amen.